parole de ce jeudi 13 novembre 2020. Liturgie de la parole de ce jeudi 13 novembre 2025, jeudi, de la 32e semaine du temps ordinaire, année impaire. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. La sagesse et les rayonnements de la lumière éternelle, le miroir sont tâches de l'activité des dieux. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 7, du 27e verset, test entrecoupé. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, né, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même le plus intelligent, le plus pur, le plus subtil. La sagesse, en effet, s'émeut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa purité, car elle est la respiration de la puissance des dieux, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'entendre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité des dieux, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis des dieux. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations, et si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne paie rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 17e chapitre, du 20e au 25e verset. En ces temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. on vous dira, voilà, il est là. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme. Quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, la sagesse. Éloge à la sagesse. Un poème merveilleux, très beau sur la sagesse. C'est la première lecture d'aujourd'hui. Sagesse 7, du 22e verset jusqu'au 8e chapitre, premier verset. Qu'est-ce que la sagesse n'est pas? La sagesse est tout ce qu'il y a de beau, de bien, de bon dans le monde. C'est ça la sagesse. Un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant, et observant tout, pénétrant tous les esprits. Éloge à la sagesse. Les Juifs qui écoutaient ce texte, nous sommes au premier siècle de notre ère, étaient confrontés à la sagesse grecque, la philosophie grecque, mais aussi la sagesse romaine, la culture romaine. Il faut leur faire comprendre que la sagesse biblique, celle de l'Ancien Testament, dépasse toutes sortes de sagesse. Ils sont aussi en Égypte et dans la tradition égyptienne, ils ont aussi leur sagesse, mat. Il faut donc insister sur l'importance de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est semblable à celui dans lequel se trouvaient les Juifs au premier siècle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le monde? Beaucoup de choses se sont développées. Les nouvelles technologies, tant d'autres choses. Les progrès technologiques. Face à tout cela, le Seigneur nous rappelle à travers la première lecture d'aujourd'hui qu'il faut rester fidèle à son identité. Les réseaux sociaux, nous y sommes tous. Mais l'important, c'est de se comporter dans ce monde, dans le monde numérique, dans le monde en général, en restant fidèle aux exigences de l'Évangile, aux exigences de notre foi. Il faut apprendre à discerner. Discerner toujours ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Le discernement. La sagesse, c'est aussi discernement. C'est ce qui ressort de la première lecture aujourd'hui. Une sagesse qui pénètre tous les esprits, même le plus intelligent, le plus fort, le plus subtil. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres, et traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu. Les discernements dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous voyez dans les réseaux sociaux, mais apprenez à discerner. Vous ne pouvez pas tout partager. Vous ne pouvez pas tout lire. Vous ne pouvez pas tout regarder. Il y a des images qu'il faut effacer tout de suite, éliminer de votre téléphone. C'est ça, être sage, le discernement. À l'époque de Jésus, ses contemporains sont aussi confrontés au discernement. Le règne de Dieu, est-ce que le règne de Dieu est déjà là ou bien il n'est pas encore là? Il faut discerner. Où est le règne de Dieu et où est-ce que Dieu ne règne pas? La question posée par les pharisiens est intéressante. Quand viendrait le règne de Dieu? En fait, les pharisiens, nous sommes au premier siècle de notre ère. Les pharisiens attendent le règne de David. C'est ça le souhait de la plupart des juifs à l'époque. Ils voudraient le règne de David, restaurer le règne de David. Dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, la dernière conversation entre Jésus et ses apôtres. Jésus et les onze, avant l'ascension de Jésus au ciel, ils sont en marche vers Béthanie et du coup, les apôtres demandent à Jésus, c'est maintenant que tu vas restaurer le règne de David. Parce que même pour les apôtres, c'est ça. On attendait le règne de David. C'est-à-dire qu'il y ait un roi qui est comme David, un roi qui est imposant, un roi qui fera respecter les Juifs, un roi qui fera que les Juifs puissent de nouveau redevenir un peuple honorable, noble, comme à l'époque de David. On attendait le règne de David. Contre toute attente, Jésus vient. Dès ses premières paroles dans l'évangile de Marc, Jésus dit, convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche. Jésus n'est pas venu apporter le règne de David. Il n'est pas venu pour restaurer le règne de David. Il est venu pour que Dieu règne. Il est venu nous apporter le règne de Dieu. Les gens sont un peu surpris. On s'attend au règne de David, les royaumes de David, et maintenant, ils parlent du règne de Dieu. Et d'où la question, quand viendrait alors le règne de Dieu dont vous parlez ? Jésus dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Ils s'attendent à l'irruption spectaculaire de Dieu dans l'histoire. Que Dieu fasse irruption dans l'histoire de façon spectaculaire, en confondant tous les adversaires des Juifs. Irruption spectaculaire de Dieu dans l'histoire. C'est à cela que beaucoup s'attendent, le règne de Dieu, de façon spectaculaire. Jésus dit non. Ce n'est pas observable. On vous dira, il est ici, il est là, mais discernez. Parce que le règne de Dieu, comme le dira Paul dans la lettre aux Romains, le règne de Dieu, c'est pas question de nourriture. Le règne de Dieu, c'est d'abord des valeurs. La justice, la paix et tant d'autres valeurs. Jésus est venu justement pour cela, pour des valeurs. Les valeurs spirituelles, valeurs chrétiennes, la paix, l'amour, la vérité, la justice et tant d'autres valeurs. Dieu règne là où il y a ces valeurs. C'est peut-être ce à quoi nous nous attendons tous. C'est à quoi vous vous attendez, vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans des prisons. Vous voulez l'irruption des dieux dans votre histoire. Que Dieu intervienne, qu'il fasse des miracles dans votre vie, dans notre vie, devant la souffrance, devant la guerre, qu'il intervienne de façon spectaculaire pour confondre ceux qui vous font souffrir, pour confondre vos adversaires. Ça, c'est l'attente des Juifs au premier siècle aussi. Que Dieu intervienne dans votre vie de façon spectaculaire. Jésus dit non. Ce qui est important, c'est d'abord les valeurs. Ce qui est important, c'est que vous vous convertissiez d'abord, que vous viviez l'évangile de la justice, de la vérité, de la paix, de l'amour, des valeurs. Lorsque on se met à vivre ces valeurs-là, à les promouvoir, c'est alors que votre vie va changer. C'est alors que le monde va changer. C'est ça le règne de Dieu. Et c'est lui qui nous apporte le règne de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Jésus, il n'est pas un Messie au sens où l'entendaient les Juifs, les contemporains de Jésus au premier siècle. Un Messie qui s'impose dans la société. Un Messie qui prend le pouvoir dans la société et dit qu'il est Messie souffrant. Voilà pourquoi à la fin de cet évangile, il dit, avant cela, mais auparavant, Avant que le règne de Dieu ne puisse apparaître réellement dans le monde, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. La souffrance. La souffrance a un sens salvifique, salutaire pour nous les chrétiens. La souffrance n'est pas une humiliation. Souffrir ne signifie pas que vous êtes rejeté par Dieu. Vous qui nous suivez, là où vous êtes, en train de traverser des moments difficiles, peut-être en prison, peut-être dans des hôpitaux, vous pouvez donner un sens à votre souffrance. Jésus est passé par la souffrance, avant la résurrection, avant l'ascension. Parfois, Dieu nous fait passer aussi à travers des épreuves diverses. L'épreuve que vous endurez, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un passage. Le dernier mot appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à ceux qui vous font souffrir. C'est Dieu qui a les derniers mots. Que Dieu dise le dernier mot dans votre vie, dans notre humanité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.